Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 25 août 1989 à Saint-Jaudard.
Je réponds à quelques questions posées. Pourriez-vous préciser la différence de la nature humaine en Adam, avant la faute, et la nature humaine dans le Christ? Question de théologie, hein, étant donné que je ne peux absolument pas parler de la nature humaine en Adam, ni dans le Christ, en dehors de la foi. Selon la tradition, ce qu'il n'y a presque rien dans l'Écriture, selon la tradition, Adam avait une grâce de justice originelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grâce semblable à celle des anges. C'est une grâce qui perfectionne la nature, donc qui est dans le prolongement de la nature, mais qui est évidemment divine et qui permet d'être enfant de Dieu. Mais elle est quand même dans une harmonie beaucoup plus profonde avec la nature humaine. Autrement dit, si vous voulez, autant que nous pouvons le savoir, c'est la grande théologie des anges de saint Thomas, c'est pour ça qu'on l'appelle le docteur angélique. Parce que c'est le grand théologien des anges. Il n'y a pas beaucoup de théologiens qui ont parlé autant sur les anges que saint Thomas. C'est une partie évidemment que les thomistes d'aujourd'hui n'exploitent pas beaucoup. Mais c'est quand même quelque chose de très beau. Et dans la perspective de saint Thomas, de cette grâce originelle, cette grâce de justice originelle, la hiérarchie de la grâce correspond à celle de la nature. Autrement dit, je prends l'exemple très simple, si vous êtes plus intelligent, vous devez recevoir une grâce plus parfaite. Oui. Et c'est cela que Lucifer n'a pas accepté quand le Christ a montré que les petits derniers, les petits peaux rouges, l'esprit lié à la matière, Adam, aurait peut-être une grâce plus parfaite et pouvait avoir une grâce plus parfaite que les séraphins, les surhumains. Ça ne va pas accepter ça. C'est impossible. Ils n'ont pas accepté qu'il puisse y avoir une hiérarchie dans l'ordre de l'amour qui ne correspondent pas rigoureusement à celle de l'intelligence. C'est très curieux, ça. C'est un fait. Encore une fois, selon une tradition des pères de l'Église et de saint Thomas et d'autres théologiens, du reste, la grâce du Christ, la nature humaine dans le Christ, et dans cet état de pauvreté ontologique, c'est-à-dire de pauvreté au niveau de l'être, puisque cette nature humaine ne subsiste pas en elle-même, elle subsiste dans le Verbe de Dieu. Donc la nature humaine dans le Christ est dans un état de pauvreté radicale. Elle est parfaite, mais elle ne va pas jusqu'au bout de l'autonomie dans l'ordre de l'être. Elle subsiste dans le Verbe. Et elle reçoit une grâce qui n'est plus en harmonie avec la nature humaine, mais une grâce qui provient du mystère de l'union hypostatique. Et donc, qui est beaucoup plus divine, qualitativement. Qui a une exigence beaucoup plus grande. La grâce du Christ, ce n'est pas premièrement pour faire que sa nature humaine soit dans un état de perfection, mais c'est pour que la nature humaine dans le Christ soit parfaitement enfant de Dieu. Et la grâce chrétienne que nous avons est une grâce en harmonie avec celle de Jésus. Et donc, c'est une grâce qui, de fait, fait de nous en premier lieu des enfants de Dieu. Et pas premièrement des hommes parfaits. C'est très très important ça. C'est ce que Suarez n'a pas très bien compris. Et dans toute la théologie de Suarez, c'est là la très grosse différence entre la position thomiste et la position de Suarez, des pères jésuites. L'Église n'a pas tranché, donc les deux sont bonnes. Mais il y a toute une... Alors, une orientation très différente au point de vue apostolique. Oui. C'est pour ça que c'est très important au point de vue catéchèse et au point de vue réflexion sur le point de vue apostolique. Évidemment, on peut choisir la théologie puisque l'Église accepte les deux. Oui, il y a une théologie, autrement dit, qui met une plus grande part à l'effort volontaire humain et une théologie qui met une plus grande part, la première, à la réceptivité par rapport à la grâce. J'espère que vous voyez. La nature humaine en Adam est parfaite et elle atteint une sorte de plénitude grâce à la plénitude de grâce qu'Adam a reçue. Dans le Christ, la nature humaine est qualitativement plus parfaite. Mais elle implique certaines vulnérabilités que la grâce d'Adam n'avait pas, que la nature humaine d'Adam n'avait pas. Puisque le Christ a une nature humaine en vue de l'incarnation. Donc, pour porter toutes les conséquences du péché. La souffrance et la mort. Normalement, Adam ne devait pas connaître la mort et ne devait pas connaître la souffrance. Et c'est pour ça que nous avons en nous, quelquefois, des réminiscences d'Adam. Et nous avons une belle horreur de la souffrance et de la mort. Parce que notre nature humaine, la nôtre, notre nature humaine en Adam a eu ses privilèges. Et il y a une petite révolution dont nous ne pouvons rien, qui fait qu'Adam a perdu ses privilèges et tous ses descendants. Or, au plan métaphysique, Adam est plus proche de nous que nos propres parents. Ça vous semble invraisemblable, ça, mais c'est comme ça. Faisons un petit schéma Est-ce que ça, ça vaut la peine? Adam, nature humaine, la grâce de justice originelle, elle est en harmonie, il y a une harmonie. Mais cependant, la grâce reste toujours ce qu'elle doit être, elle fait d'Adam un fils de Dieu. Et elle fait d'Ève une fille de Dieu. Mais cette grâce est en harmonie parfaite avec la nature, à tel point qu'elle donne des dons préternaturels. Et des dons préternaturels extrêmement grands, puisque Adam n'aurait pas dû mourir. Adam n'aurait pas dû souffrir. Adam, avant le péché, n'a jamais commis d'angoisse, ni de souffrance, ni de tristesse. Et il s'entendait parfaitement avec Ève, qui elle aussi ne connaissait pas d'angoisse, pas de souffrance. Et il aurait dû avoir une nativité sans douleur. Il n'y avait pas eu de souffrance. Alors comment se fait-il qu'Ève ait écouté le démon? Problème de la liberté, on va le voir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut, c'est voir cette harmonie parfaite, voulue par Dieu. L'Éden, ils sont dans l'Éden. Et l'Éden, c'est extrêmement agréable. C'est un hôtel de 5 étoiles. C'est extraordinaire, merveilleux. Tout est parfait. Tout est en harmonie. Il y a des petits poissons rouges toute la journée. Merveilleux. L'Éden, c'était extraordinaire. Tout l'univers était pour l'Éden. Et tout l'univers était pour Adam et Ève. Former un couple merveilleux. Ils se regardaient l'un l'autre avec un amour extraordinaire, merveilleux. Comment se fait-il qu'à travers tout ça, il puisse y avoir encore une faille? La liberté. Ève a louché. Un œil sur Adam, un œil sur petit serpent. Elle louchait. Elle était libre de loucher. Il y a une curiosité d'orgueil. Après tout, ce serait peut-être mieux d'être un peu plus indépendant d'Adam. Liberté, ça tourne vers la miroir, ça miroite. Le nouvel Adam, le Christ, la nature humaine dans le Christ est parfaite, c'est très vrai. Qualitativement, elle est plus parfaite. La chair du Christ. Puisque la nature humaine, il y a le corps, la chair du Christ, a une qualité plus grande que celle d'Adam. L'atavisme auprès de Marie. Et Marie a une qualité de sensibilité plus grande qu'Ève. Tout est repris en Marie. En vue de sa maternité, pour sa maternité. Et Jésus connaît une limpidité merveilleuse, divine. Le corps et l'âme. Mais la nature humaine dans le Christ ne subsiste pas puisqu'elle subsiste dans le Verbe. Donc, c'est pour ça que je dis ontologiquement, la nature humaine du Christ au plan de l'être, à une pauvreté radicale, qui le mets dans un, un lien, un rapport unique avec le Verbe de Dieu. Et étant donné ce lien, la grâce du Christ a une plénitude comme celle d'Adam. Il y a deux plénitudes. Plénitude de grâce. Mais la plénitude de grâce en Adam, c'est pour la perfection plénière de sa nature et en même temps être vraiment fils de Dieu. Avec la promesse de la vision béatifique, de la béatitude. La plénitude de grâce du Christ, elle vient du Verbe directement. De sorte que le hiatus entre la grâce et la nature est plus grand dans le Christ qu'en Adam. Les exigences de la grâce dans le Christ sont plus grandes qu'en Adam. C'est bien évident. La grâce du Christ le conduit à la croix. Plénitude de grâce qui le conduit à la croix, qui le conduit à l'offrande totale de tout ce qu'il est. Et cette grâce lui donne un sacerdoce royal qui réclame d'être victime d'amour. Ça, c'est le propre de la grâce du Christ. Vous voyez comme elle est exigeante par rapport à la nature humaine, que la nature humaine du Christ soit offerte en victime. Jamais la grâce d'Adam n'aurait exigé ça. C'est pour ça qu'en justice originelle, il n'y aurait pas eu la vie religieuse. Et c'est pour ça que dans le fond de notre être, notre lien avec Adam fait que la vie religieuse, c'est stupide, parce que c'est la croix. Donc, c'est folie et scandale. C'est vrai, c'est folie et scandale. Toujours. C'est un scandale pour notre nature humaine. Ce qui est normal, c'est le mariage. Il n'y aurait pas eu la vie religieuse. La grâce de justice originelle ne la demandait pas. Or, il va dire, or, quand je prends la descendance d'Adam, Adam est le chef, prince, le premier. La descendance d'Adam, donc le petit piou-piou que nous sommes, hein, petit dernier, descendance longue, je ne sais pas combien de temps il y a, ça dépend ce que vous regardez, la descendance d'Adam. Adam est quand même un petit peu loin historiquement, préhistorique. La descendance d'Adam, et puis, fin du XXe siècle, le petit enfant qui naît maintenant, fin du XXe siècle, parce que nous sommes déjà vieux, alors c'est, mais fin du XXe siècle, hein, petit bébé qui naît maintenant, bien, il est dépendant d'Adam. Métaphysiquement parlant, ou plus exactement, au niveau de la foi, Adam est responsable de toute sa lignée. C'est pour ça que la faute d'Adam a une répercussion sur toute sa lignée. Il était responsable. C'est de l'ordre de la dignité de sa personne. C'est de l'ordre moral. Mais un moral divin. Donc c'est l'ordre divin. C'est l'ordre sacré. C'est quelque chose de sacré. Il y a un lien entre Adam et nous. Et d'une certaine manière, Adam est plus proche que nos propres parents, parce qu'Adam est chef de la nature humaine, alors que nos propres parents ne sont pas. Ils sont dans la série, comme nous. C'est très curieux, ça. de sorte qu'il y a un lien souterrain au niveau ontologique entre Adam et nous. Saint Thomas pose la question, est-ce que Jésus est relié à Adam dans sa chair, dans sa nature humaine? Il dit oui, forcément. Et la race d'Adam, il n'y a qu'une seule race, celle d'Adam. Les autres, c'est rien du tout. C'est extérieur, oui. C'est une couleur de peau, une couleur, des yeux, plus ou moins écarquillés, des choses comme ça. C'est très occidental. Il y a une race, celle d'Adam. Et le chef, c'était Adam, qui reste. Il n'a pas perdu sa qualité de chef. Il a perdu sa dignité. Il est resté. L'ordre naturel n'est pas détruit. Et parce que l'ordre naturel n'est pas détruit, évidemment, nous sommes dépendants d'Adam. Et c'est ça qui est très très curieux. C'est très difficile à regarder. Mais si on ne voit pas ça, le péché originel, ça semble un mythe. Si on voit ce plan de Dieu, ben c'est ce qu'on doit respecter. Or, ce plan de Dieu, il est un peu révélé. Comment voulez-vous appeler Jésus nouvel Adam si Adam était très proche de l'animal précédent? De sa vie, il aurait marché à quatre pattes. Puis tout d'un coup, je sais pas, il y aurait une grâce particulière. Il dit, tiens, je peux me tenir debout. Là, je me tiens debout. J'ai des mains, tiens, c'est curieux. C'était un évolutionniste dominicain qui était acharné. Il disait tout le temps, acharné, alors beau jour, j'en avais par-dessus la tête toujours ce qu'il disait. Un jour, il est sorti. Celui qui n'accepte pas l'évolution, il est en état de péché mortel. Je dis, très bien. Alors, le soir, je lui dis, vous savez, j'ai compris. C'est bon, vous voyez ce que c'est que le péché originel. Il a dit quoi? Mais oui, c'est extrêmement clair. Un jour, Adam s'est aperçu que sa mère n'avait pas l'intelligence. Et son père non plus. C'était des animaux, des braves animaux. Très braves animaux. Mais c'est des animaux, non. Ils n'ont pas honoré leurs parents. Ils sont passés devant, ils l'ont opéré. Ils ont dit, tu es de la vieille génération, toi. Elle était furieux. Elle dit, mais il faut regarder ça. Ah non, il ne faut pas regarder ça de très près. Il faut regarder ça de très près. Au contraire, il faut regarder ça de très près. Heureusement qu'aujourd'hui, on commence à quitter l'évolution. Vous savez, les derniers livres d'anglais, pleins d'humour, mais très intelligents, montrent qu'au fond, ça ne tient pas. À la fin de sa vie, Rostand, qui avait été très, très pour l'évolution, Rostand lui a montré les dernières découvertes biologiques. Rostand a dit à la fin de sa vie, il faudra sans doute reprendre entièrement cette théorie d'évolution. Alors ça restera encore un certain temps dans l'Église, mais les savants l'auront dépassé. Oui, parce qu'elle est toujours conservatrice, l'Église, même pour les révolutions. Alors c'est comme ça, il y a quelque chose. Parce qu'on est en train... Je vous le dis, c'est les dernières choses actuelles, on sent très bien. On ne peut plus affirmer l'évolution comme il y a 20 ans. On est obligé de mettre des tas de bémols. Et on arrive presque à dire, oh, entre l'homme et l'animal, on ne sait pas comment ça s'est fait. Parce que c'est vrai, on ne sait pas du tout. Et c'est tellement extraordinaire. Et quand on pousse de près, on voit que c'est impossible. Étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu aurait abandonné un tout petit enfant à quand même un animal, si bon qu'il soit. On ne voit pas du tout. C'est bien que des tout petits enfants emmenés par des louves, on les a retrouvés quelques années après, marchant à quatre pattes et vivant comme des loups. On a essayé de les reprendre et les rééduquer. C'était très très difficile. La rééducation est toujours très difficile. Les premiers pas, c'est très important. C'est très mystérieux tout ça. Mais c'est intéressant parce que il n'y avait pas des intentions très pures chez Darwin. Non, il n'y avait pas des intentions très pures. De sorte que c'est normal qu'une hypothèse fausse, acceptée comme une théorie, au bout d'un moment craque. Mais comme on a tellement, tellement insisté, la propagande joue un rôle énorme, vous savez bien. Il y a très peu de gens qui sont capables de dépasser la propagande. C'est normal, ils n'ont pas assez d'autonomie de pensée. Alors ils se laissent aller. Donc voilà le point de vue de la nature humaine dans le Christ et dans Adam. C'est la même, spécifiquement. Mais dans le Christ, elle a une qualité unique. Puisque la création de l'âme du Christ est la même que celle d'Adam. Spécifiquement. Et comme le corps du Christ a une qualité plus grande que celle d'Adam. Tout de suite. Et comme le corps du Christ, comme l'âme du Christ a tout de suite été transformée par la grâce. Et puis qu'elle était tout de suite sanctifiée par l'union hypostatique. La nature humaine du Christ a connu un développement unique. Unique. Le Christ est le plus beau de tous les enfants des hommes. Même si les hommes ne l'ont pas reconnu. C'est souvent ce qui arrive. Les choses géniales, on les reconnaît que trois générations après. Ordinairement, ça console les artistes. Voir que les choses géniales, c'est vrai, c'est normal. C'est prophétique, ça devance. Et quand il s'agit d'une chose géniale de la sagesse de Dieu, on le reconnaîtra que dans le ciel. Les anges reçoivent-ils la grâce par le Christ ? Non. Les anges ont une grâce de justice originelle. Ils n'ont pas une grâce chrétienne. Alors maintenant, d'autres questions. Peut-on distinguer une influence du diable dans la philosophie de Marx et de philosophes modernes, de gauche, c'est-à-dire d'idéologie athée? J'aime mieux dire de théologie athée que de gauche. Comment ceci se manifeste? Par l'orgueil. Le démon est le père du mensonge et de l'orgueil. Je crois, alors ça c'est mon interprétation. Il faudrait regarder l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse nous enseigne énormément sur la stratégie du démon. C'est le seul livre qui nous enseigne sur la stratégie du démon. Et on voit très bien que le démon imite toujours. Alors il va imiter ce que Dieu a fait. Dieu a voulu nous sauver par l'incarnation. Le démon veut nous perdre par la bête de la mer et la bête de la terre. Ce n'est pas le dragon, ce n'est pas le serpent, c'est l'alliance du démon et de l'homme. L'homme, par lui-même, je crois, n'affirmerait pas l'athée. Je crois qu'il faut une très grande dose d'orgueil pour affirmer que Dieu n'existe pas. Autrement dit, il faut une attitude affective très forte. Et c'est ce que le psaume dit, incipiens, l'insensé. Dit Dieu, il dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Dans son cœur. Alors, évidemment, on subit des influences. Celui qui, depuis sa première jeunesse, n'a jamais entendu parler de Dieu. Oui, c'est l'exemple que je vous avais dit. À Lérins, à Lézins, en Suisse, quand j'allais là-bas et que j'ai rencontré cette petite Russe. Quand elle m'a dit, j'ai une âme religieuse. Alors j'ai dit spontanément, ah, alors vous adorez Dieu. Elle m'a répondu du tac au tac, mais avec force. Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça, c'est le fruit d'une éducation athée. Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, si vous regardez chez beaucoup de jeunes et que vous demandez qu'est-ce que c'est que Dieu, il dit, je ne sais pas. Le Christ, un bon prophète, un grand prophète, un homme qui a aimé beaucoup les hommes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, parce qu'on arrive à des générations qui ont vécu d'un certain athéisme. Et alors, l'éducation première joue énormément, ça c'est sûr. Si à la place d'avoir une louve comme mère, on a une mère chrétienne, ben oui, ça joue. Si à la place d'avoir une louve comme mère, on a quelqu'un qui est très athée, et on peut découvrir en soi une âme religieuse. Parce que notre âme est naturellement religieuse. Et on peut très bien ne pas savoir ce que c'est que Dieu. C'est très curieux, ça. Et c'est un phénomène qu'on verra. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'on ne détruit pas l'âme. L'âme est créée par Dieu. Elle a toujours la même nature. C'est les hommes qui font le refoulement religieux. Donc, qui refoule et qui empêche. Alors, je crois que le démon veut montrer à Dieu qu'il a eu tort de créer l'homme et la femme. Ça, c'est le plan du démon. Et donc, sa plus grande victoire, c'est de faire que des hommes qui sont les plus aimés, les Benjamins, disent « Dieu n'existe pas ». C'est le blasphème le plus grand. Dieu n'existe pas. Eux, en tant que démons, ils sont trop intelligents pour dire ça. Ils ne peuvent pas dire que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas d'athéisme dans, chez les mauvais anges. Lucifer est obligé d'accepter que Dieu existe. Trop intelligent pour ça. Mais ses petits frères, les hommes, ces petits peaux rouges, sont trop pas assez intelligents, sont trop dans le sensible, sont trop dans la passion. Et il suffit de bien les mener, de bien les éduquer. Il y en aura une bande d'hommes, de femmes, qui crieront. Dieu n'existe pas. Et ça, c'est la grande révolte, c'est la grande victoire du démon. De sorte que toutes les idéologies athées proviennent radicalement, premièrement, du démon. Parce que il y a un a priori affectif d'orgueil. On n'accepte pas d'avoir quelqu'un au-dessus de au point de départ, hein, je ne dis pas que tous les athées sont orgueilleux. Non, non. ceux qui sont chefs de file. C'est tout à fait différent. Ceux qui ont créé une idéologie athée. Il y a un moment dans leur vie où ils ont aimé mieux écarté par le mouvement dialectique. Parce que leur intelligence était liée à une dialectique. Alors, je crois qu'on peut dire que dans toutes les idéologies athées d'aujourd'hui, il y a toujours une influence démoniaque. Mais ne disons pas que les athées sont nécessairement sous la domination du démon. Non. Ils ont subi une influence. C'est pour ça qu'il faut avoir horreur des idéologies athées et une grande miséricorde pour les athées. On doit juger sévèrement les idéologies athées. L'idéologie athée de Freud, de Nietzsche, du positivisme. On doit les juger sévèrement, c'est-à-dire montrer que ce sont des erreurs. Et montrer comment le serpent mord sa queue. Dans toutes les idéologies athées, il y a un sophisme radical. Quelque chose de contradictoire. Ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et je vous dis, le grand moyen de leur montrer ça, si vous avez un marxiste qui est marié, qui est père de famille, demandez-lui, mais gentiment, demandez-lui, vous êtes père de famille, vous êtes un époux, vous aimez votre épouse. Vous aimez vos enfants ? Oh oui. Est-ce que le marxisme explique l'amour que vous avez pour votre épouse ? Est-ce que le marxisme explique l'amour que vous avez pour vos enfants ? À ce moment-là, il est très embêté. Oh, ça s'explique biologiquement. Alors, vous allez maintenir votre amour en prenant tous les jours un peu de phosphore, hein, ou un peu, oui, pour être plus intelligent, plus éveillé. Et les jours où vous prenez du soufre. Hein. Alors, il commence à dire, hein, l'amour est autre chose. Je peux évidemment modifier certaines choses de mon corps, par le point de vue chimique, c'est sûr. Mais l'amour, dans ce qu'il a de plus profond, il est au-delà du corps. Il est spirituel. Et les idéologies athées ne disent rien là-dessus. Vous voyez, pour moi, c'est la marque de l'influence du démon. Le démon est celui qui n'aime plus et qui ne veut plus aimer. Tant qu'il y a un amour présent, le démon n'est pas totalement présent. Possibilité de conduire vers Dieu quelqu'un qui aime. Toujours. Beaucoup plus que par l'intelligence, vous voyez. C'est par l'amour. L'amour nous met plus immédiatement en contact avec Dieu que notre intelligence. Évidemment, l'avantage de l'intelligence, c'est que ça peut se communiquer. L'amour ne se communique pas. Je dirais, j'aime ma femme, c'est pour ça que je crois en Dieu. Quand vous dites ça à un positiviste, c'est ce pauvre type. Tu crois encore à ça? Tu crois au Père Noël? Mais tu verras dans 10 ans, quand elle sera un peu fanée. Alors à ce moment-là, dans 10 ans, est-ce que tu l'aimeras encore? Ben non, tu l'aimeras plus. Mais si au bout de 20 ans, la même personne dit « je continue à aimer », ça m'est égal, il y a quelque chose d'autre. Oui, L'amour fait craquer le positivisme. Pour moi, l'amour, vous savez, on a cette émotion quand on voit des petites plantes vertes, des petites herbes qui poussent au-delà du bitume, qui fait sauter. C'est très émouvant, ça. On voit que la vie a ce pouvoir extraordinaire de faire sauter ce bitume. Il ne faut pas les maintenant qu'ils soient trop épais. Mais quand il n'est pas très épais, pour moi, c'est ça, le spirituel, par rapport à ce corset de fer que représente le positivisme. Un jour ou l'autre, il y a une fêlure et ça passe. Oui, ce qui a sauvé quelqu'un comme Rostand, parce qu'il a gardé une âme d'enfant jusqu'à la fin de sa vie, c'était l'amour qu'il avait pour sa femme. Et sa femme était catholique. J'ai connu les fils de Rostand. Ils étaient tous catholiques. Et fervents, je vous affirme. Et c'est l'amour qu'il a eu pour sa femme qui a maintenu en lui quelque chose qui a fait craquer le positivisme. Il le disait. Pourquoi j'ai tant de peine aujourd'hui de reconnaître que Dieu existe? C'est parce que j'ai eu une enfance dans le positivisme. Donc vous voyez, l'influence du démon se fait sentir dans toutes ces idéologies athées, toutes. Et c'est toujours le désir de vouloir tout expliquer scientifiquement, humainement parlant. C'est l'orgueil scientifique, collectif. C'est l'orgueil. Et le mensonge dans des apologétiques. Si l'homme était plus libre avant le péché originel, pouvez-vous développer ce qu'est la liberté et l'expérience de notre liberté? C'est bien pour la fin. C'est un très grand sujet. Une session de philosophie sur la liberté. Et vous viendrez tous. Alors comme ça, on pourra expliquer ce que c'est que la liberté. Je l'ai fait déjà. Il faut le refaire tout le temps. La liberté. Eh bien, contrairement à Descartes, parce que Descartes a influencé énormément la philosophie française et européenne, même Kant, contrairement à Descartes, la liberté n'est pas un absolu. Encaisser pour un Français et un Européen. La liberté n'est pas un absolu. Qu'est-ce qui est l'absolu? C'est l'amour. À quoi ça vous sert d'être libre si vous n'aimez pas? Je suis libre, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, mais je suis libre. Je peux faire n'importe quoi, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a des gens libres qui se suicident. Ils se suicident librement. Tandis que des amoureux qui ne sont pas déçus dans leur amour ne se suicident jamais. Le jour où ils sont, alors là c'est autre chose, le jour où ils sont déçus, c'est différent. Songez à ça, la liberté de celui qui se suicide. Il se suicide librement. Il le dit, il écrit une lettre. Il était malade. Oui, très bien. Mais il était peut-être malade, librement. Il y a des gens qui sont malades librement. On veut arriver à ça. La liberté n'est pas un absolu. On est libre dans la mesure où l'on aime. Voilà la liberté morale. On est libre dans la mesure où l'on aime. Si l'on aime beaucoup, une liberté folle. C'est la liberté des enfants de Dieu. Il y a la liberté de l'artiste. Ah. Alors celle-là, elle ne provient pas de son amour. Elle provient de son inspiration. Un artiste qui n'a aucune inspiration, il copie. Alors il dit amèrement, c'est plus de l'art, c'est une commande. On m'a demandé de faire ça, je le fais. Il faut gagner ma croûte. Alors, il copie. Aucune liberté. Tandis qu'un artiste qui a une inspiration est à la fois commandé par son inspiration et libre, parce qu'il choisit en vue de l'inspiration. Voyez, ce qu'il faudrait voir ici, c'est que la liberté, hein, vous allez tout de suite comprendre, j'espère, la liberté, c'est quelque chose d'abstrait. En réalité, il y a des actes libres. Il y a des actes libres. Saint Thomas, pour nous faire comprendre ça, donne l'exemple de blancheur et blanc. Il y a un mur qui est blanc, puis il y a la blancheur. La blancheur, sauf la statue. De la liberté, avec des ailes. Regardez la Bastille, puis ça ne vole jamais. C'est très ennuyeux. Ça reste fixe. La liberté, vous n'avez aucune expérience de la liberté. Tandis que vous avez l'expérience d'actes libres. Donc, pour savoir ce que c'est que la liberté, il faut revenir aux actes libres. Pour savoir ce que c'est que la blancheur, il faut revenir au mur blanc, au visage blanc. Vous voyez ? Là, c'est très important. C'est ça, l'hygiène de l'intelligence. Vous revenez aux expériences. Parce que vous savez que seule l'expérience me fait progresser. Vous pourrez méditer 107 ans sur la liberté. Vous tomberez dans l'imaginaire. Et vous imaginerez la liberté. Ah, on respire. Comme si la liberté était l'oxygène de l'âme. Mais non, l'oxygène de l'âme, c'est l'amour. C'est pas la liberté. Quoi. C'est très très important, ça, vous savez. Parce qu'il y a des mythes. Il y a un mythe de la liberté. Pour fondre ce mythe. J'ai jamais vu la liberté, et vous non plus. Mais vous avez expérimenté des actes libres. Des actes plus ou moins libres. Plus ou moins. Il y a du plus et du moins. Ça, c'est sûr. Vous savez la fable de La Fontaine ? Le loup et le chien. C'est une fable qu'il faut de temps en temps lire. Comme La Fontaine, du reste. C'est pas bête du tout. Le chien, le loup, il est libre dans ses activités. Le chien, bien grand, il a sa pitance toujours, un collier qui vient limiter sa liberté. Il a une chaîne, Et le loup voit tout de suite ça. Vous voyez ? La liberté du loup, qui est la liberté de l'artiste. Un artiste aime la liberté. Il n'aime pas d'être commandé. Il est obligé de temps en temps. De temps en temps, il est obligé. Il faut bien gagner sa croûte. Alors, vous voyez, ça, c'est l'homme qui doit manger. Alors, il est obligé d'accepter ça. Il aura les deux. Il fera les deux. Mais en tant qu'artiste, il est libre dans la mesure où il est inspiré. Du reste, il est artiste que dans la mesure où il est inspiré. C'est un artiste qui n'a jamais connu ce que c'est que l'inspiration. Je ne sais pas si c'est un artiste. C'est un virtuose. C'est un homme extraordinairement habile. Mais ce n'est pas un artiste. L'art donne toujours quelque chose qui permet d'aller plus loin. Alors, l'homme était-il plus libre avant le péché originel? Alors, tout dépend. Avant le péché originel, il avait la grâce. Il avait l'amour de Dieu et l'amour d'Ève. Deux amours. Après le péché, il n'aime plus Dieu. Il a peur de Dieu. Il se cache lorsqu'il entend les pas de Dieu. Et Ève, il en fait sa complice. C'est un manque d'amour. Celui qui est dans un état de péché, c'est-à-dire qu'il n'aime plus ni Dieu ni le prochain, n'a plus de liberté. Il est esclave du péché. C'est dans Saint Jean au chapitre 8. On est esclave par le péché. Et quand on est esclave, évidemment, la liberté diminue beaucoup. La grâce chrétienne me redonne une nouvelle liberté parce qu'elle me donne un nouvel amour. Mais cette liberté devra se réaliser, grandir dans la lutte. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume de Dieu est au violent. Il le dit, c'est dans la lutte. Et la lutte fait que la liberté, à certains moments, est très courte. On doit lutter. Quand vous luttez, vous ne dites pas, est-ce que je suis libre ? Pas du tout. Toutes vos forces sont tendues vers le but qu'il faut atteindre. Il y en a un coureur qui arrive à la fin de sa course, tout entier tendu. Ne lui demandez pas à ce moment-là, est-ce que tu es libre ? Vous reprenez. C'est curieux, ça, voyez ? Il est libre parce qu'il a choisi au point de départ. Mais après, tout est employé vers ça. Alors, on dira, c'est pas libre. Oui, il est libre parce que cette liberté d'honneur. C'est comme dans la vie religieuse. On est libre de faire des vœux. Et cette liberté demeure présente, toujours. Mais quand on a fait des vœux, on est tendu vers un but à atteindre. Alors à ce moment-là, on dira, mais vous êtes beaucoup moins libre. Vous êtes beaucoup moins libre. Non, il y a une liberté beaucoup plus grande au point de départ. J'ai choisi cette orientation pour aimer plus. Alors j'ai opté pour une liberté intérieure plus grande, et une dépendance extérieure plus grande. Parce que c'est très curieux, hein ? Au fond, chacun d'entre nous, si on réfléchit un peu, on a plus ou moins de liberté intérieure et plus ou moins de liberté extérieure. Un règlement de vie enlève la liberté extérieure pour augmenter la liberté intérieure. La vie religieuse donne un règlement de vie. Puis il y a toujours un règlement de vie. Même dans une communauté familiale, il y a un minimum. On mangera à telle heure. Ah non, moi pas. Non, pas du tout. Je veux manger n'importe quand. Oui, alors, il y n'y a plus de vie de famille. On ne se voit plus. Vous voyez ? Une trop grande liberté extérieure diminue la liberté intérieure. Parce que diminue l'amour. C'est le dilettantisme. Vous connaissez ce dilettantisme ? Cette bête, si curieuse, elle prend la couleur du terrain. Et là, on n'arrive jamais à la dépister. Mais un dilettante, il fait toujours le caprice qu'elle veut. Et alors, je me dis, mais je suis libre. Vous ne voyez pas, vous êtes en train de tuer votre liberté intérieure. Vous êtes en train de tuer en vous votre capacité d'aimer. Parce que vous êtes un dilettante. Et forcez-vous d'avoir cette limite à l'extérieur pour avoir une vie intérieure plus grande et avoir une liberté plus grande. C'est un excellent examen de conscience. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez ce que la liberté, ça revenait toujours à l'expérience d'un acte libre. Un acte libre, c'est lorsque je vois qu'il y a diverses manières d'augmenter dans l'amour. Il y a diverses manières d'atteindre le but, la fin que j'ai choisie. Alors j'ai un choix. Et il y a une liberté plus profonde, la liberté d'exercice. Je peux poser un acte ou pas le poser. La liberté de choix, c'est à l'égard des moyens. Et la liberté d'exercice, c'est à l'égard de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Poser un acte ou pas le poser. Liberté repose sur le lien, la coopération interne de l'intelligence et de l'amour. L'amour seul risque d'être aveugle. Un passionné, il est passionné, il faut aucune intelligence. Il ne choisit plus rien. Tandis que lorsque l'intelligence est au service de l'amour, l'amour devient beaucoup plus lucide, beaucoup plus limpide. Et à l'intérieur de l'amour, on a conscience d'éveiller, on choisit. Oui. Alors, attendez, encore. Qu'y a-t-il de si signifiant dans le corps pour que Dieu choisisse de donner un corps à Adam, d'incarner son Fils, de nous ressusciter encore glorieux. Ah oui. Tu aimes le corps. Mais c'est pas une maladie. C'est sage. Tu as voulu créer son chef-d'œuvre en unissant l'âme et le corps. Et le démon, au point de départ, a dit le corps est mauvais. Et quand il a vu que le manichéisme était supprimé, il a changé son fusil d'épaule. Il a dit la matière, c'est la même chose que l'esprit. Très curieux. La tactique du démon. Quand il voit qu'une erreur est épuisée, il la mute en son contraire. Première lutte contre le corps, la matière est mauvaise. Le sensible est mauvais. Tout ce qui est charnel est mauvais. Ça a mis du temps. Et lorsque, de fait, avec saint Thomas, et que ça a passé progressivement dans les mœurs. Parce que là, on doit quelque chose à saint Thomas. Ça a passé dans les mœurs. Et on a vu qu'en effet, le corps n'était pas mauvais. La manifestation de mon intelligence se fait par le corps. L'ostensoir de mon âme, le corps. C'est ça. Manifeste le geste. La parole manifeste ce que je pense. Et alors, le jour où le corps n'a plus été considéré comme mauvais. Tactique diamétralement opposée entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit, il n'y a que du plus et du moins. Il n'y a plus de distinction. C'est très astucieux, ça. C'est pour volatiliser le corps. Un corps est rien. Pourquoi Dieu a-t-il voulu le lien entre l'âme et le corps? Dieu a voulu le lien entre l'âme et le corps pour communiquer à l'homme cette capacité de fécondité, d'être source de vie. Ce qu'il ne pouvait pas communiquer à des purs esprits. Et Dieu a voulu l'alliance de l'esprit et du corps pour qu'il puisse y avoir un amour d'amitié entre les hommes, entre l'homme et la femme. Un amour d'amitié, un don réciproque du corps entre l'homme et la femme. Un amour d'amitié entre les hommes. Il n'y a pas d'amitié naturelle chez les anges. Les anges sont tous des ermites. Ils sont tous seuls à côté de celui qui est seul. Leur seul amour entre eux provient d'une charité surnaturelle. Il n'y a pas de communauté naturelle angélique. Ça explique du reste pourquoi le démon est tellement solitaire. Et que l'alliance des démons entre eux, c'est une alliance anarchique. Légion. Il ne dit pas je m'appelle communauté. Pas du tout. Légion. Là, ça va dans tous les sens. C'est de l'anarchie. Le démon est anarchique. Par sa nature, séparé d'amour. Alors, vous voyez, voilà les deux raisons. À la créature une capacité de fécondité. C'est pour ça que le démon ne peut pas supporter la fécondité. Et ses grandes attaques aujourd'hui, c'est contre la fécondité. Il voudrait mettre la main dessus par la technique et la science. Oubliant que la fécondité provient de l'amour et que le démon ne peut rien sur l'amour. Il voudrait transformer la fécondité en efficacité. Tout le grand problème d'aujourd'hui. On dit c'est parfait puisque c'est efficace. Ah, attention. C'est pas une raison. L'efficacité n'est mesure que pour l'économie. Pour l'économie, oui. Si c'est pas efficace, vous ferez faillite. Mais l'efficacité n'est pas une mesure de l'homme. C'est évident que c'est pas une mesure de l'homme. La fécondité dépend de l'amour. On s'en apercevra trop tard. Mais je vous affirme qu'on s'en apercevra. Ça peut pas être autrement. On ne peut pas séparer la fécondité de sa source, qui est l'amour. On ne peut pas la séparer. Toute fécondité provient de l'amour. Entre la coopération et l'exploitation, l'efficacité peut exploiter. La fécondité ne peut pas exploiter. Très très important ça, c'est capital, même pour le commerce et pour l'économie. Ça va jusque là, parce que c'est humain. Le travail est-il humain, n'est-il pas humain? Un travail qui ne regarde que l'efficacité n'est plus un travail, c'est une exploitation. Ici, on exploite l'homme. Pas ce qu'on devrait mettre. Un travail humain implique une coopération et non pas une exploitation. Il faut beaucoup réfléchir à ça. Parce que si on ne réfléchit pas beaucoup à ça, on ne comprend pas. Et on se laisse entraîner par des séductions. Des séductions terribles. Et des gens qui brisent l'amour. Et on est en train aujourd'hui de briser le foyer. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que le Saint-Père demande d'avoir un tel amour vis-à-vis du foyer. D'avoir un regard très vigilant. Parce que le démon attaque violemment. Donc, voyez, fécondité et amitié. C'est les deux choses qui font comprendre pourquoi il y a un corps. Et j'en ajoute une troisième au plan surnaturel. C'est que grâce au corps que le Verbe assume, il peut y avoir un don total de Dieu pour chacun d'entre nous par l'Eucharistie. C'est évident que Dieu peut se donner indépendamment du corps, c'est sûr. Mais pour manifester ce don et pour nous le faire comprendre, il faut l'Eucharistie. C'est la grandeur de l'Eucharistie. C'est lié au corps du Christ et lié à Marie. C'est maternel, l'Eucharistie. Comme toujours, le corps est maternel. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que l'homme comprend moins bien ce que c'est que le corps. Le corps est maternel. Il y a un lien particulier. Oui. Si l'homme avait un sens plus grand du corps, il ne violenterait jamais une femme. C'est là la méconnaissance violente. Et une méconnaissance mais qui va très loin. Pour moi, c'est quelque chose de terrible. Ça prouve qu'on est une brute. Et qu'on ne comprend plus ce que représente le corps humain. Qui est la manifestation de l'âme spirituelle. Parce que c'est juste l'inverse de la coopération. La violenter, c'est exploiter. C'est briser. C'est exploiter. Et Jésus a pris le corps de l'homme pour montrer que par le corps, il pouvait aller jusqu'au bout du don de son amour. La blessure du cœur et l'Eucharistie. Je voulais parler un peu plus du mystère de la rédemption. C'est vrai, l'incarnation ordonnée à la rédemption. La vie du Christ se termine par la rédemption. Et la rédemption se fait à travers un holocauste d'amour. Je me souviens, c'était sitôt la dernière guerre. J'étais déjà en Suisse, parce que je suis parti en Suisse, vite après le moment où la guerre était terminée, il fallait remplacer un professeur. Donc m'envoyer à toute vitesse. Et à Noël, j'étais à Sallanches, à Mégève, à Sallanches, avec un groupe de jeunes. Il y avait la moitié de marxistes. Le maquis rouge. Et l'autre, des chrétiens. Je suis venu là-bas en dominicain. Ça fait un petit effet pour garder une bête curieuse. Je dis, vous n'aimez pas les vieux meubles? Moi, j'aime beaucoup un meuble du 12e siècle, vous savez. Surtout qu'il n'est pas trop mangé des mythes, alors ça va. Alors, je vais passer comme ça, là. Montrer que c'est vrai, c'est quand même, c'est pas si mal. Un avis religieux, c'est bien, c'est beau. Et alors, les chrétiens me demandaient de faire des conférences sur Jésus et sur la croix. Les marxistes étaient invités. Ils sont tous venus. Je leur ai dit, je vous demande d'accepter la conférence, puis après vous poserez toutes vos objections. Et vous les poserez comme vous les sentez. J'aime des hommes durs et convaincus. Alors évidemment, avant la conférence, il y avait... Eh bien, la raison qui revenait le plus souvent chez les marxistes à propos de la croix, c'est terrible, vous êtes pour le suicide. Les jeunes, vous êtes pour le suicide. Vous acceptez que Jésus est mort librement. Il aurait pu se sauver. Vous êtes pour le suicide. Je pense ça exprès parce que je crois que c'est très significatif. Jésus, vous voyez, tout à l'heure je disais la liberté de celui qui meurt. Jésus est mort librement. C'est même, je crois, l'acte le plus libre qui a existé dans le monde. Il n'a jamais existé, c'est comme ça que j'aurais répondu du reste. Il n'a jamais existé d'acte aussi libre que l'offrande que Jésus fait de sa vie terrestre. Parce qu'il n'y a jamais eu l'offrande d'une vie aussi précieuse, avec autant d'amour. Et donc on est là, en face de l'acte le plus libre qui soit. C'est du reste magnifique de regarder ça. Tous ceux qui aiment la liberté, qu'ils regardent la croix. Qui la regardent de l'intérieur, pas d'extérieur. Et de leur montrer que la violence que Jésus a subie, cette violence est dépassée par un amour plus grand. Qui fait que cette violence va pouvoir devenir un signe de l'amour. Alors, vous n'avez plus quoi dire. Voyez, l'éthique chrétienne, c'est l'éthique de la croix, c'est l'éthique de l'amour, et d'un amour qui est victorieux de la mort. Aucune éthique religieuse ne peut dire ça. Et je crois que nous devons beaucoup aujourd'hui regarder cela, parce que c'est ça qui donne le caractère propre de la vie chrétienne. Et face aux autres religions, nous devons les regarder, être attentifs et comprendre ce qu'il y a de caractéristique à l'éthique chrétienne. C'est le mystère de la croix, où Jésus offre par amour pour sauver les hommes sa propre vie. À ce point de vue-là, c'est juste l'inverse du suicide, puisque c'est par amour pour les autres qu'il offre sa vie et qu'il se donne, sachant que par sa mort il sauve les autres et leur donne une vie nouvelle, sachant que par sa mort il pourra permettre aux hommes d'entrer dans une vie nouvelle. Tout le mystère de l'incarnation est en vue de la croix. Et le mystère de la croix est pour nous sagesse. Parce que c'est à la croix qu'on comprend ce primat absolu de l'amour. Et d'un amour gratuit, d'un amour miséricordieux, respecte la justice et qui s'en sert. Jésus, jusqu'au bout, n'a pas condamné la loi. Il l'a aimée. Mais il l'a achevée. Il lui a donné un sens nouveau. Il n'y a plus le primat de la justice, il y a le primat d'amour et de la miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.